Bonjour à chacun, bonjour à chacune. Bienvenue ce matin ici à l'église évangélique de Mérin et bienvenue également à ceux qui sont en streaming ce matin. Bienvenue également aux enfants et aux cathés. Aujourd'hui, c'est un dimanche de cathé output. Donc les jeunes du cathé ont donné ou donnent encore un coup de main pendant ce culte ce matin. Je vais commencer par un tout petit temps d'annonce. Voilà, comme ça, ça sera fait. Alors, mardi soir, l'atelier biblique à 20h. Et puis, j'ai une annonce à vous faire de la part de Annick, qui est malade et qui m'a transmis son annonce, donc je vous la lis. Dans un esprit d'entraide pour les personnes fragilisées de notre Église, le groupe Tricot & Co est heureux de proposer une aide au raccommodage, c'est-à-dire recoudre des boutons, reprendre de simples ourlets ou coutures défaites. Nos compétences s'arrêtent à ces quelques petits travaux. Nous ne sommes pas des couturières de métier, mais nous aimons travailler de tout notre cœur pour concourir au bien de ceux qui se trouvent démunis. Les habits, maximum 2 à 3, devront être propres et étiquetés à votre nom et mis dans un sac. Les raccommodages se feront le lundi 26 janvier lors de la rencontre Tricot & Co dès 14h30. Si vous n'êtes pas disponible ce jour pour déposer et reprendre vos habits, vous pourrez les amener dimanche 25 janvier. Un panier sera mis à votre disposition sur une table du foyer et vous pourrez les reprendre le dimanche 1er février après le culte. Pour toute question, le groupe Tricot & Co est à votre disposition. Voilà, et puis je vous parle encore une petite minute de l'activité Parole et Silence. Donc chaque deuxième mercredi du mois, sauf au mois d'avril, ça sera le troisième, il y a un tout petit temps de méditation, de silence et de partage qui est proposé autour d'un texte biblique dans la chapelle juste à côté. Il y a un tout petit groupe œcuménique qui se réunit régulièrement de 18h à 19h. J'ai eu l'occasion longtemps de participer à ce groupe et c'est vraiment un temps de pause, de réflexion, de ressourcement et d'échange qui est vraiment bienfaisant. Donc prochaine date, ceux qui sont intéressés, le mercredi 11 février à la chapelle à 18h. Voilà, on va prendre un tout petit temps d'offrande ce matin et je vais demander à Noëlla et Alicia si elles sont d'accord. Oui, non ? Naëlla, pardon ! Je l'ai écrit en plus, mais j'ai fait mon A un peu moche, donc il a ressemblé. Je suis désolée, c'est pas top ça. Hein. Voilà. Alors, pendant ce temps, si quelqu'un a juste à cœur, à haute voix, de dire merci à Dieu pour quelque chose qui s'est passé cette semaine ou quelque chose qui lui a fait plaisir ou voilà, simplement, ben, c'est un petit temps ou tout petit temps où vous pouvez le faire tranquillement, comme ça, spontanément. Merci pour... Merci. Ce matin, j'avais envie de vous proposer quelques verbes. Ils ont tous un point commun. Enfin, essayez de trouver. Voilà, si vous avez quelques idées, on verra après. Se promener, flâner, déambuler, rôder, vadrouiller, marcher, cheminer, aller, se déplacer, partir, se diriger vers, se mouvoir, se rendre à, bouger, se bouger, trotter, parcourir, s'élancer, filer, se hâter, se dépêcher, s'empresser, s'agiter, courir, foncer, bondir, fuir, et évoluer, progresser, suivre, toujours continuer, avancer. Qu'est-ce que ça vous évoque ? Une idée ? L'action ? Se bouger, le mouvement, la progression, l'agitation ? Ne jamais arrêter. Les étapes de la vie. Ben moi, c'est surtout le mouvement qui m'a intéressée. Se mettre en route. Bien sûr, il y a différentes intensités. Hein. Ça dépend de ce qui me décide à bouger. Chaque fois, il y a des questions qui se posent. Je sais que parmi nous, il y a pas mal de marcheurs et de coureurs. Qu'est-ce qu'on prend avec soi ? De l'eau. Alors moi, c'est ma brosse à dents, surtout pas l'oublier, celle-là. Je sais pas pourquoi, mais voilà. Qu'est-ce qu'on laisse ? Ça dépend de la météo aussi. Hein. Et puis, se mettre en mouvement, dans quel but ? Pour aller où ? Dans quelle direction ? Selon quelle orientation ? Et qu'est-ce qui m'attend ? Comment sera le chemin ? Suis-je plutôt inquiète ? Est-ce que j'aurai la force ? Aller vers l'inconnu ? Attends, je parle par expérience. Hein, là. Ou bien suis-je curieux ? Il y a de l'inattendu. Faire de nouvelles découvertes. Mais au fait, qu'est-ce qui me met en route ? Qu'est-ce qui me met en route ? En tout cas, c'est le contraire de rester immobile, statique, voire figé, bien que des fois les circonstances de la vie nous amènent à être figés. Mais tenter de toujours se mettre en mouvement, individuellement, intérieurement peut-être, collectivement. Il y a mille façons d'aller. Et dans le psaume 122, on trouve un élan à aller. Et ce psaume fait partie des psaumes dits de montée qui accompagnaient la lente ascension du peuple vers Jérusalem au moment des fêtes. Ces psaumes étaient chantés, récités, peut-être même scandés pendant la marche. Et je vous lis un extrait du psaume 122 dans une version un peu inhabituelle. Une force subite est montée en moi lorsqu'on m'a dit « Viens, accompagne-nous à la maison du Seigneur, mais pas se hâte d'atteindre ce lieu enraciné, riche d'histoire, Jérusalem. Je murmure ton nom, fondation de la paix. » Là, mon corps s'édifie en peuple. Là, mon être vibre filialement. Là, s'expérimente la solidarité humaine. Là, la liturgie tonifie. Notre louange emplit l'espace. Nos cris et nos prières se rejoignent. Je vous invite à la prière. Ce matin, Père, nous nous sommes levés, nous nous sommes mis en route pour venir ici te rendre un culte. Nous sommes là, chacun, où nous en sommes. Et toi, ô Dieu, tu veux nous rejoindre. Que nous puissions percevoir et recevoir ta parole, que nous nous laissions toucher par elle et que nous puissions y répondre par un mouvement de notre être, si minime soit-il, afin que cette parole continue son œuvre de transformation en nous et autour de nous. Merci pour ta présence au milieu de nous. Sois loué, Seigneur. Amen.
Merci Daniel, et j'aimerais vous inviter à sortir de notre immobilité en rajoutant deux verbes, se lever et chanter. Donc je vous invite à vous lever pour louer notre Seigneur. C'est quelque chose d'étrange quand même, hein, se retrouver comme ça de environ 6 mois, peut-être, un peu moins, 3 mois, jusqu'à, on n'ose plus tellement dire le nombre d'années, pour chanter ensemble. C'est pas quelque chose qu'on voit beaucoup aujourd'hui. On aimerait chanter « Je loue ton nom éternel, je chante ton nom, je célèbre ta bonté ». C'est notre manière d'être reconnaissant envers lui pour tout ce qu'il a donné en chantant « Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix pour payer pour moi ». De la croix, de la mort jusqu'au ciel, il est ressuscité, je loue ton nom éternel. Seigneur, tu mérites toutes nos louanges. Tu mérites absolument tout parce que tu es Dieu et en plus de ça, tu t'es donné sur la croix pour nous. On aimerait te louer ce matin de tout notre cœur. Amen.
Je loue ton nom éternel, Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi, quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi. De la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel, je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel,
Seigneur, je célèbre ta bonté.
Oh ta bonté,
quelle joie tu vis en moi.
Quelle joie tu vis en moi.
Quelle joie tu viens pour nous sauver.
Pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi. De la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel, je loue ton nom éternel. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi. De la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel, je loue ton nom éternel.
Seigneur, nous voulons te chanter gloire ce matin. Gloire à toi. Même si c'est difficile dans le moment, même si on est malade, même si on vit un deuil, Seigneur, on veut chanter gloire. Et tu sais qu'on vit des choses difficiles. Ce matin, on veut se rappeler que tu es notre essentiel. Quand tout s'effondre, quand tout a l'air de couler entre nous, tu es là. Tu es notre rocher, le rocher de notre salut. Tu es notre bouclier. chantons gloire à Dieu.
Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie. Oui, à toi, Jésus-Christ. Et même si je suis fragile, même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son. Je viens te dire, Seigneur, que tu es mon bonheur. Non, rien ne peut détruire notre bel avenir. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile,
nous chanterons gloire.
Je chanterons gloire à l'Éternel. Nous chanterons louange à son nom. Nous chanterons Dieu mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Toute ma vie, je redirai que tu as donné ta vie. Toute ma vie, je redirai que tu as payé le prix. Oh, toute ma vie, je redirai que je ne vis que pour lui. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom.
Je chanterai gloire à l'Éternel.
Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son
Seigneur, viens. Il y a des jours où je ne t'entends pas. Il y a beaucoup de jours où je ne t'entends pas. Il y a des jours où je me laisse happer par la vie. Et je pense qu'on est plusieurs ici comme ça. Où dans nos semaines, on se laisse emporter par le flot de nos occupations. Viens pousser le tout, Seigneur, pour prendre la place. pour qu'on t'entende, Seigneur. Tu frappes à notre porte, on veut te répondre. Seigneur, on a besoin de toi dans nos vies.
Entends-tu l'écho qui frappe sur ton cœur? Entends-tu, écoute, car il est bientôt l'heure. Il t'attend à l'orée de ton âme. Il te tend les bras, il te réclame. Viens au secours de mon peu de foi. Viens, mon amour, j'ai tant besoin de toi. Tu es l'unique, éclatant dans ta gloire. Par ton don magnifique, je connais l'espoir. Qui appelles-tu au moment de la douleur? Qui répond lorsque la vie perd ses couleurs? Reviens, mon âme adorée, le Seigneur. Reviens l'embrasser, lui qui console. Mon amour, j'ai tant besoin de toi. Tu es l'unique, éclatant dans ta gloire. Par ton don magnifique, je connais l'espoir. Viens au secours de mon peu de foi. Tu es l'espoir sur le rivage rebelle de mes nuits. Éclat puissant à travers l'orage de ma vie. L'amour cloué sur le bois tel un malfaiteur. Secours voué à la croix pour tes serviteurs. Secours voué à la croix pour tes serviteurs.
Merci Seigneur, tu es avec nous jusqu'à la fin des temps. Tu nous l'as promis, tu es avec nous. Alléluia. Merci Seigneur pour ton amour. Parce que quand tout chancelle, tu es là. Tu es le rocher de notre salut. Amen. Je vous invite à vous rasseoir.
Les enfants, tout à l'heure, on a parlé de bouger, de mouvement. Est-ce qu'il y en a qui aiment bien bouger parmi vous ? Ah ouais. Ah ouais. J'ai vu tout à l'heure quelqu'un qui faisait comme ça. Ça fait du bien, hein ? Ouais. Est-ce qu'il y en a qui font du sport ? Waouh ! Alors, toutes les mains se lèvent. Alors, vous faites quoi ? Judo ? Football ? Rock acrobatique ? Natation ? Handball, pardon. Oui, encore quoi ? Jiu-jitsu ? Basket. Et toi ? Équitation et rock acrobatique. Waouh ! D'autres choses ? Il y a des talents là. Hein ? C'est super. Vivement les Jeux Olympiques. Peut-être qu'on en retrouvera certains. Ok, super. Alors les enfants, ça va être à vous de rejoindre vos groupes. Alors du coup, vous pouvez vous bouger. Vous avez même le droit exceptionnellement de courir si vous voulez. Mais juste maintenant, hein, pas après. Hein. Oh, ils sont sages. Et puis on remercie Rebecca et Kevin qui vont être avec vous en bas. Bon culte.
Bonjour à chacun et à chacune, heureux de vous retrouver pour le culte de ce matin. Nous reprenons des cultes avec un format Slido et on va même le développer dans les semaines, mois qui viennent, avec d'autres formats plus spécifiquement encore consacré au Slido, mais pour rappel, le Slido, c'est cette application facilement trouvable sur vos smartphones et qui vous permet, pendant la prédication ou après, de poser des questions en lien avec ce que nous partageons, en lien avec le texte biblique. Et tout à l'heure, après le moment de scène, nous prendrons un petit moment pour répondre, en tout cas, à quelques questions, s'il y en a. N'hésitez pas, lâchez-vous. Il y a de la place, ça fait une partie du mouvement aussi, se lâcher, non ? Il y a de la place pour le Slido dans nos cultes, il y a de la place pour de l'échange, et j'espère encore qu'on arrivera même à développer ça. J'aimerais juste encore saluer ce matin Charline et Jean-Marc avec leur petit Quentin. C'est loin le canton de Vaud maintenant, mais on est très heureux de vous revoir ce matin. Et puis j'aimerais aussi saluer Adrien et Elina avec la petite Noélie, c'est juste Adrien, qui est née juste avant Noël, peu avant Noël. Fin octobre, c'est moi qui suis largué. Bienvenue et je trouve vraiment génial pour la petite histoire qu'on ait autant d'enfants sous la bonne surveillance de leurs parents là au fond. C'est vraiment formidable de pouvoir les accueillir ce matin et on est très heureux même d'entendre leur voix si jamais. N'ayez pas honte. Je vous invite à suivre ou écouter la lecture d'un texte biblique.
Nous lisons dans l'évangile de Marc. Jésus marchait le long du lac de Galilée. Lorsqu'il vit Simon et son frère André, ils étaient en train de jeter un filet dans le lac, car c'étaient des pêcheurs. Jésus leur dit : Venez à ma suite, et ce sont des êtres humains que vous pêcherez. Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. Jésus s'avança un peu plus loin et vit Jacques, le fils de Zébédée, et Jean, son frère. ils étaient dans leur barque et réparaient leurs filets. Aussitôt, Jésus les appela. Alors, ils laissèrent leur père Zébédée dans la barque avec les ouvriers et partirent à sa suite.
Merci Daniel, et c'est jusqu'ici la lecture de la parole de Dieu. J'aimerais commencer par un lieu commun, par une évidence, par une banalité. En disant qu'être chrétien, qu'être chrétienne, c'est être disciple du Christ. Être chrétien, être chrétienne, c'est être disciple du Christ. Et cela semble tellement évident que nous n'y faisons plus vraiment attention, que nous ne prenons plus vraiment la mesure de ce que cela signifie, de ce que cela implique d'être disciple du Christ. Ça veut dire quoi aujourd'hui ? Être disciple du Christ. Et c'est tout l'intérêt de ce passage, de surcroît en début d'année, un passage qui nous présente les tout premiers disciples et qui nous fait prendre conscience de ce qu'est être disciple et de ce que cela peut impliquer pour nous qui nous réclamons du Christ. Le premier point que j'aimerais relever, c'est que le fait d'être chrétien, le fait d'être chrétienne, le fait d'être disciple, donc, c'est une réponse à un appel qui nous a été lancé. C'est une réponse. Parce que ni Simon, ni André, ni Jean, ni Jacques, dans notre texte, n'ont l'idée de devenir disciples du Christ. Ils ne se sont pas levés un beau matin en se disant « purée, ce serait le bon moment ce matin pour devenir disciples du Christ ». Il n'y a pas ça chez eux. D'ailleurs, à ce moment précis de l'histoire, aucun d'entre eux n'a jamais entendu parler de Jésus. Nous sommes au tout début de l'évangile et Jésus n'a pas encore acquis la formidable notoriété qui sera la sienne juste quelques chapitres plus loin dans l'évangile. C'est donc l'appel de Jésus au verset 17 et 20 qui a fait de ces quatre personnages des disciples au sens où ils vont suivre Jésus, effectivement. Ils vont marcher à sa suite, ils vont aller avec lui, ils vont faire comme lui. Et je trouve intéressant ici que le grec utilise un mot qui est le suivant, akolouteo, qui est devenu acolyte en français. Les disciples, ce sont des acolytes de Jésus. Puis en plus, ils sont acolytes entre eux. Parce que remarquez qu'il n'en appelle pas un, il en appelle quatre. Et il en appellera des dizaines, des centaines après eux. Et cela a une grande importance pour notre vie chrétienne. Parce que ça signifie que nous ne sommes jamais chrétiens ou chrétiennes seuls. Ça n'existe pas. Nous ne sommes pas auto-fondés, nous ne sommes pas auto-suffisants. Personne n'est une île, pour le dire d'une manière un peu plus technique. Nous sommes toujours au bénéfice d'une parole qui nous a été adressée personnellement. Nous sommes toujours au bénéfice d'une parole qui nous a sorti d'un certain anonymat, d'une forme d'inertie également, pour nous mettre en route. Et nous mettre en route avec d'autres. l'appel du Christ est ce qui fait vraiment de nous un chrétien, une chrétienne. Sachant que l'appel du Christ de nos jours, dans ces premiers jours de 2026, l'appel du Christ ne retentit plus dans la bouche même de Jésus. Parce qu'il n'est pas là en train de nous dire « Toi, Philippe, suis-moi ». Il n'est pas là en personne pour nous le dire. Ça marche comment alors ? 2000 ans après le ministère de Jésus, je crois que la parole du Christ, elle retentit encore, mais de bien des manières différentes. La parole du Christ, elle retentit dans la bouche des parents qui nous font entendre l'évangile qui résonne dans la Bible. La parole du Christ, elle sort de la bouche de nos amis, de ces gens qui nous veulent du bien, qui partagent des choses essentielles avec nous. La parole du Christ, elle retentit, j'espère, dans la bouche d'un prédicateur. La parole du Christ, elle retentit dans notre tête lorsque nous nous penchons avec attention sur certains textes bibliques, puis qu'on se dit « purée, comme ça me touche !» Peut-être qu'elle retentit à la manière de Victor Hugo, qui fut pris un jour d'une sorte de frénésie en consultant le vieux livre dans le poème « Aux feuillantines ». Je vous le lis. Nous montions pour jouer au grenier du couvent. Et là, tout en jouant, nous regardions souvent sur le haut d'une armoire un livre inaccessible. Nous grimpâmes un jour jusqu'à ce livre noir. Je ne sais pas comment nous fîmes pour l'avoir, mais je me souviens bien que c'était une Bible. Ce vieux livre sentait une odeur d'encensoir. Nous allâmes ravis dans un coin nous asseoir. Des estampes partout, quel bonheur, quel délice. Nous l'ouvrîmes alors tout grand sur nos genoux et dès le premier mot, il nous parut si doux qu'oubliant de jouer, nous nous mîmes à lire. Nous lûmes tous les trois ainsi tout le matin, Joseph, Ruth et Boz et le bon Samaritain. Et toujours plus charmés le soir, nous le relûmes. C'est beau le français. C'est encore plus beau quand le français est saisi par l'esprit de l'écriture. Et que l'écriture elle-même nous saisit, nous change, nous transforme, nous pousse à l'admiration, à l'adoration, à la gratitude. Nous sentons l'appel du large. Nous sentons l'appel au voyage infini qui dépasse les fatigues, les lassitudes, les angoisses de la vie. C'est un appel qui nous ressuscite, qui nous arrache à la torpeur, qui donne du sens, de la vitalité à l'existence. La parole du Christ, elle peut également retentir de la part d'un parfait inconnu, comme c'est le cas pour les disciples, qui entendent un appel d'un parfait inconnu et qui sont saisis par l'appel. Non seulement ils se sentent concernés par cette parole qui tranche avec tout ce qu'ils avaient pu entendre jusque-là, mais ils répondent de leur personne en disant oui de tout leur être, un grand oui. Toutes ces paroles ont en commun d'être prononcées dans des conversations qui délaissent le terrain des formules convenues, du small talk, des discussions sur la pluie et le beau temps, et qui accostent enfin sur les rives vertueuses de ce qui compte vraiment. L'appel du Christ, il retentit dans les questions qui nous aident à faire le point sur notre vie, semblable à la question que l'Éternel adresse à Adam dans le livre de la Genèse. Peut-être la plus importante de toutes les questions, Adam, Où es-tu ? Où es-tu ? Question que le Seigneur nous pose encore, je crois, à propos de nos racines. Où es-tu ? Où en es-tu ? Où en es-tu sur le chemin de ton humanité ? Dans quelle direction te rends-tu pour progresser un peu, pour apprendre ton métier d'homme, ton métier de femme ? Et pourquoi te caches-tu ? Mais qui suis-je donc pour toi ? De quoi as-tu peur ? Comment vas-tu gérer ta peur ? Où es-tu ? Où es-tu ? Et puis, un peu plus tard, il y a la question que le même Éternel adresse à Caïn. Qu'as-tu fait de ton frère ? Qu'as-tu fait de ton frère ? Ça, c'est la question qui ouvre le champ de la fraternité, du vivre ensemble. C'est la question qui nous rend responsables, la question qui nous appelle à répondre de nos actes, de nos paroles, autant que de nos absences. Qu'as-tu fait ? Que fais-tu de ton prochain ? Comment en prends-tu soin ? De tes vieux parents, de tes jeunes enfants, de tes ados, de tes jeunes adultes à la maison, de ton conjoint, de ta conjointe, de ton voisin, de ton collègue, de ton patron, de tes employés, de l'étranger, de celui qui paye de sa vie à l'autre bout du monde sa révolte ou juste son désir de revenir à la vie, de retrouver du sens, de la dignité, t'en fais quoi ? C'est qui pour toi ces gens, ces amis avec qui tu as tellement partagé, puis qui passent par un temps difficile, t'en fais quoi ? Où es-tu ? Que fais-tu des autres ? La relation à Dieu, la relation au prochain, c'est l'Évangile. Toutes ces questions, ce sont des appels à faire quelque chose de notre vie, les amis, à ne pas nous laisser aller. Le Créateur du monde nous fait à ce point confiance qu'il vient nous questionner. Ce sont autant de paroles qui nous incitent à composer l'histoire au lieu d'en pâtir, d'en être acteur plutôt que de la subir. Ce sont des appels à agir, à entreprendre. Car si nous ne faisons rien, comment les choses qui ne vont-elles pas pourraient-elles s'arranger ? Ces paroles nous responsabilisent, elles bouleversent nos schémas, elles bouleversent nos agendas, nos priorités, notre vie tout entière. En plus, ce sont des paroles qui nous font confiance. Ce sont des paroles qui traduisent un regard particulièrement positif et confiant sur nous. Ce sont les paroles qui suivent un regard d'amour. Où es-tu ? Que fais-tu ? Et j'ai confiance en toi pour que tu apportes les bonnes réponses à ces deux questions. Et tout bien considéré, cette parole, cet appel qui s'adresse à nous personnellement, c'est ce qu'en christianisme, nous appelons la grâce. C'est une parole qui nous est offerte personnellement et qui ouvre notre vie sur les dimensions de la vie que nous n'avions pas encore découvertes et vers lesquelles nous avons envie de nous rendre. C'est une parole qui ouvre notre univers individuel sur la dimension universelle de la vie, sur l'humanité que les hommes et les femmes appelés par Jésus vont maintenant rejoindre. Parce qu'être vraiment humain, c'est être en relation avec Dieu. Et c'est le Christ qui nous met en relation avec Dieu. Cet appel qui nous est fait signifie encore une fois, et c'est tellement important, que Dieu nous fait confiance. Que nous sommes dignes de sa confiance. Que nous faisons partie, nous aussi, de cette humanité vers laquelle il nous a appelés. Et je trouve que ça ne devrait pas nous laisser indifférents. Quelle plus grande valeur pourriez-vous chérir que celle d'être aimé par le Créateur des mondes. Vous vous rendez compte la valeur que vous avez ? Les amis, nous sommes aimés et chéris et en confiance du Créateur du monde. Ça devrait nous mettre en route beaucoup plus que nous le sommes, en fait. Pour le dire avec le théologien Dietrich Bonhoeffer, c'est une grâce qui coûte. Cette grâce, elle coûte comme elle a coûté aux premiers disciples qui ont laissé leurs filets, qui ont laissé leurs pères Zébédée. C'est une grâce qui coûte parce que cet appel provoque chez nous une réaction. Une réponse en forme d'adhésion qui nous engage, qui exige de nous des décisions, des abandons, du tri. Une forme, je vais oser le dire, d'obéissance. C'est une grâce qui coûte parce qu'elle est aussi une prise de risque personnelle. C'est une grâce qui nous arrache à la tranquillité qui est tellement confortable, mais qui ne correspond pas à notre vocation profonde. Cet appel venant du Christ, cette intranquillité qui est la seule assurance que nous avons au bout du compte, avec cette promesse que notre vie n'aura plus rien de commun avec ce qu'elle était, parce que désormais, Christ vit en nous. Ça, c'est l'exigence infinie de l'amour qui nous anime. C'est le souci de l'autre qui nous préoccupe. C'est le désir d'instaurer une fraternité active qui nous taraude. C'est la possibilité de la paix qui nous attire inlassablement. La grâce que cet appel du Christ nous coûte, en ce sens qu'elle nous implique. Cet appel requiert notre énergie, notre intelligence, notre force, notre âme, l'intégralité de notre être. Regardez, Simon et André, ils laissent leur filet de pêche. Ils ne peuvent plus, à partir de ce moment-là, se cacher derrière la technique, derrière les artifices, derrière les habitudes. Ils vont devoir s'impliquer personnellement, désormais, et nous avec eux, puisque l'appel nous est lancé. S'ils communiquent, c'est qu'ils auront quelque chose à dire. Parce qu'ils ne pourront pas se cacher derrière les outils sophistiqués du design ou de l'intelligence artificielle ou encore des éléments de langage de bois. Ils ne pourront pas. S'ils soignent, ils se pencheront vers le malade dans une attitude clinique, respectueuse. Parce qu'ils ne pourront pas se cacher, ces disciples, derrière des batteries d'analyse et d'examens exécutées par des machines hors prix. Non, ils prendront soin de l'individu. S'ils prêchent, ses disciples, ils mettront leurs tripes sur la table. Parce qu'ils ne pourront pas se cacher derrière une exégèse historico-critique. S'ils bâtissent, s'ils construisent, ils embrasseront la nature du regard, puis ils plongeront leurs mains dans la matière et leurs yeux dans ceux de leurs contemporains. Parce qu'ils ne pourront pas se cacher derrière un programme immobilier standardisé. Jacques et Jean laissent leur fille, leur père Zébédée. Ils ne peuvent plus se cacher derrière ce qu'ont fait leur père, ni leurs aînés. Ils vont devoir s'impliquer personnellement désormais, et nous avec eux, comme eux. Nous ne pouvons pas nous cacher derrière ceux qui nous ont précédés. L'histoire, elle est à écrire maintenant. Ils ne pourront pas se contenter de dire, ses disciples, « Ah, c'était mieux avant !» Mais ils devront s'investir dans l'aujourd'hui et le maintenant de leur propre temps. S'ils décident de mettre au monde des enfants, quelle folie! Alors, ils inventeront la manière d'être les moins mauvais parents. Car ils ne pourront pas se cacher derrière l'attitude de leurs propres parents. S'ils décident de faire de la politique, ses disciples, eh bien, ils élaboreront une stratégie cohérente, bienfaisante, fraternelle, humaine, parce qu'ils ne pourront pas se cacher derrière les tyrans de ce monde. Ils devront faire autrement. S'ils décident de proposer une éducation religieuse aux plus jeunes, ils imagineront une nouvelle pédagogie catéchétique, parce qu'ils ne pourront pas se cacher derrière le catéchisme de Luther ou de Calvin ou de Blocher. L'appel du Christ, il provoque une rupture radicale par rapport à tout ce qui est établi, par rapport à tout ce qui est programmé, par rapport à ce qui a été inscrit dans la loi, dans l'usage et dans la tradition. Il faut faire autrement. Et cela coûte à l'homme ou à la femme qui se met à suivre Jésus. Ça coûte. Cela coûte le prix de sa vie, car c'est un engagement total qui est requis dans le fait d'être disciple du Christ. Ça ne peut pas être seulement une adhésion de principe ou un accord de façade. Être disciple du Christ, c'est un oui qui nous engage pleinement dans une vie nouvelle et qui nous change, et qui change notre logique, et qui change notre rapport à Dieu, et qui change notre rapport aux autres. Suivre le Christ, c'est adopter son regard sur la vie. C'est adopter aussi sa logique du don qui s'oppose à la logique du donnant-donnant. Suivre le Christ, c'est renoncer aux privilèges du monde. C'est se mettre au service de l'humanité tout entière. C'est partir, dit Jésus, à la pêche aux hommes. Pas la pêche aux chrétiens, pas la pêche aux occidentaux. La pêche aux hommes, en déployant sa propre manière d'être, en faisant valoir ses propres talents, en étant libre à l'égard des stéréotypes quand ses usages nous empêchent d'aimer vraiment, lorsqu'ils nous tiennent à distance de nos frères et sœurs en humanité, lorsqu'ils nous retiennent de vivre une véritable fraternité. Je conclus avec quelques questions. Dans ce passage biblique, les personnes que le Christ appelle ne répondent pas par une confession de foi, ne répondent même pas par un geste. Ces personnes, elles répondent par une action obéissante à l'ordre de le suivre. Comment manifesteras-tu, toi, ton n'appelle à le suivre. Concrètement, ça va se faire comment? Tout à l'heure, en rentrant, cet après-midi, demain, en reprenant le travail, au milieu de la semaine, puis vendredi soir, quand la pression retombe, comment manifesteras-tu ton appel à le suivre? Et il n'y a que toi qui as la réponse. Mais je te pose la question. Comment manifestes-tu ton appel à le suivre? Ces quatre personnes, elles répondent aussi par une mise en route de leur existence. Quelle mise en route ou remise en route pourrais-tu envisager? Encore une fois, il n'y a que toi qui peux répondre. Si tu as envie d'en parler avec moi, on en parle quand tu veux, à peu près. Mais quelle mise en route pourrais-tu imaginer? C'est quoi les moments clés, les points spéciaux où tu pourrais te dire « purée, là, je peux me mettre en route ou me remettre en route. » Et puis ces personnes, elles répondent par une exposition de leur propre personne, par une prise de risque, en laissant derrière elles leurs assurances, leurs garanties, leur confort et leur certitude. Qu'est-ce que tu es prêt à remettre en jeu? Ce matin, concrètement, qu'est-ce que tu es prêt à remettre en jeu? Ta réputation? L'image que tu as de toi ou que les autres ont de toi? Tes rêves? C'est quoi? Où est-ce que tu es prêt à remettre quelque chose en jeu? Être disciple de Christ, n'est pas pour autant un pari sur l'avenir. Il n'y a pas d'insécurité chronique à marcher avec Jésus. Il n'y a même pas de fragilisation continue. Mais il y a l'accord de tout notre être avec l'Évangile au cœur du monde. Être aligné, c'est marcher avec le Christ. C'est dire oui à une promesse de vie enthousiaste et en tirer toutes les conséquences au quotidien. Nous sachons de toutes les manières accompagner chaque jour et en tout par celui qui a promis à ses mêmes disciples « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Même quand les choses s'écroulent, vous pouvez compter sur moi. Je serai là avec toi. » Ça ne vaut pas le coup de se relancer ? Amen.
On va chanter « Je suivrai mon Seigneur et mon Maître sans jamais m'éloigner de ses pas ». C'est prétentieux, surtout après un message comme ça. J'aimerais plus vous inviter à le chanter comme un désir profond plutôt que comme quelque chose d'accompli. Est-ce qu'on peut vraiment suivre mon Seigneur et mon Maître sans jamais nous éloigner de ses pas? Moi, je pense que c'est difficile pour le dire de manière un peu faible. Mais j'aimerais vous inviter à le chanter comme une réponse à l'appel que nous lance Jésus, à l'appel que nous a lancé Philippe ce matin. Un appel à se lever et à le suivre. Et ça va peut-être demander quelques bousculements dans nos vies. Mais ce chant est une forme de première réponse au cri d'amour que nous a lancé Jésus sur la croix.
Je suivrai mon Seigneur et mon Maître sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ici bas ne m'arrête et sans rien que le chant de sa voix.
Je vivrai
de bonheur et de grâce, de l'amour que son cœur m'a donné, que rien ici-bas ne l'efface. C'est le cri de mon âme assoiffée.
Un seul instant
auprès de toi vaut bien les heures et la route. Tout pour autant que ce soit toi qui m'accompagne au parvis de ma joie. Sans jamais m'éloigner de ses bras, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix.
Je suivrai encore une fois.
Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ici-bas ne m'arrête, sans rien que le chant de sa voix, et sans rien que le chant de sa voix, et sans rien que le chant de sa voix.
Je vous invite à vous rasseoir.
Celui avec qui nous marchons, c'est le Christ. Celui que nous suivons et qui nous nourrit, c'est le Christ. Nous marchons chacun à notre rythme, individuellement, ensemble, en communauté et en communion avec tous les chrétiens du monde entier et de toutes les dénominations. Et c'est afin de nous rappeler que c'est le Christ qui nous appelle et que c'est lui que nous suivons, que nous sommes invités à venir à la table de la communion. Je prie. Père, tu nous appelles. Merci parce que cet appel, cette parole nous met en route. Merci pour ce pain et ce vin qui nous rappellent que nous appartenons à un peuple pèlerin qui avance avec toi sous ton regard. Nous sommes en chemin vers l'inconnu, mais assurés que le chemin n'est pas caché pour toi. Merci pour ce temps de pause et de souvenir de qui tu es, de ce que tu as fait et de ce que tu fais encore. Amen. Je lis dans 1 Corinthiens 10. Pensez à la coupe du repas du Seigneur pour laquelle nous bénissons Dieu. Lorsque nous en buvons, ne nous met-elle pas en communion avec le sang du Christ ? Et le pain que nous partageons, lorsque nous en mangeons, ne nous met-il pas en communion avec le corps du Christ ? Il y a un seul pain. Aussi, bien que nous soyons nombreux, nous formons un seul corps, car nous avons tous part au même pain. Alors ce matin, comme geste de réponse à l'appel du Christ, nous vous proposons de vous approcher de la table pour venir prendre la scène. Si quelqu'un ne peut pas se déplacer, nous viendrons vers lui. Je vous propose de commencer par le fond de la salle, de venir par là et de repartir par là. Voilà. Donc, levons-nous, levez-vous et venez, venons à la table.
Il y a deux très bonnes questions. Merci. Tu as recueilli bien des votes, c'est chouette. La première, que faire lorsqu'on a toujours baigné dedans et que cette grâce qui devrait nous émerveiller est devenue la normalité? J'ai pas de recette magique. J'en fais partie. Moi, je suis tombé dans la marmite quand j'étais petit. J'ai eu l'impression de m'habituer assez rapidement à la saveur et il a fallu la redécouvrir. Je vais être honnête avec vous, la saveur de la grâce et de l'évangile, je l'ai redécouverte ici, il y a presque 9 ans, en vous rejoignant. Il a fallu une crise majeure, une grande mauvaise surprise de la vie, pour que certaines certitudes s'effondrent et qu'on revienne à l'essentiel. Et l'essentiel, moi je l'ai redécouvert avec vous ici. Je pense qu'on s'habitue à tout, au pire comme au meilleur. Le meilleur, si c'est la grâce, nous nous y habituons. Mais il y a des façons, je pense, d'essayer de ne pas s'y habituer. Parfois au profit d'une crise, parfois au profit d'un culte, d'une rencontre, d'un chant dont on mesure la force des paroles, d'un geste auquel nous sommes invités, d'une personne qui nous saisit, d'une circonstance qui nous confond et où on s'arrête et on dit « purée, la main de Dieu était là ». Et ça vaut le coup des fois juste de s'arrêter. Je sais que c'est compliqué dans nos vies. Mais s'arrêter, prendre un petit carnet, noter 2-3 choses ou dans son smartphone. Ce jour-là, ceci est arrivé. Et j'aimerais dire merci à Dieu. Nous reviendrons bientôt vers vous avec le conseil de différentes manières pour vous dire que cette année, nous avons choisi, nous avons été conduits à choisir le thème de la gratitude, de la reconnaissance. Ça va traverser notre année, on vous expliquera comment. Moi, j'essaie de repérer chaque jour que Dieu fait au moins un élément pour dire merci. Et j'ai redécouvert des choses auxquelles je m'étais habitué, y compris sur la grâce de Dieu. Saisissez les occasions. Parlez-en. Je pense qu'on gagne à s'encourager les uns les autres autour de cette question. Maintenant, la grâce ne sera jamais la normalité. Parce que l'Évangile dit que là où le péché a abondé, et Dieu sait qu'il abonde parfois dans ma vie, la grâce a surabondé. Donc quand quelque chose est là en quantité et fait du mal, et que la grâce arrive pour le recouvrir, moi je n'arrive pas encore à m'y habituer. Et j'aimerais dire merci à Dieu. On le fait simplement en prenant ce temps de communion, en participant à l'offrande, en s'engageant dans l'Église. Merci. Et une deuxième question. Si la parole du Christ retentit dans la bouche d'amis ou de prédicateurs, comment distinguer les paroles inspirées du Christ ou juste humaines ou faux prophètes? Très bonne question. Il faut être très précis là-dessus. Les paroles inspirées du Christ, elles sont là. On peut parler des heures de traduction et tout ça, venez m'en parler si ça vous intéresse. Mais elles sont là. Tout ce qui sort de là n'est plus inspiré. Ça ne veut pas dire que Dieu ne peut pas souffler quelque chose d'intéressant, j'espère. Mais ce n'est pas forcément inspiré au sens de ce que le Christ a dit. Donc, par exemple, si j'entends quelqu'un me dire « fais ce que tu veux de ta vie », je vais quand même aller checker si ça match avec ce que le Christ a dit. Il n'a pas dit ça. Donc, je vais essayer d'équilibrer les choses. Mais les paroles inspirées du Christ, elles sont là. Ça ne veut pas dire, encore une fois, qu'un frère ou une sœur ne peut pas être inspiré en m'encourageant à faire quelque chose dans ma vie. Mais j'essaye de le vérifier par rapport à l'entier des Écritures, parce que Dieu est cohérent. Dieu ne dit pas un truc d'un côté et un autre truc de l'autre. De surcroît, j'ai un peu de peine à comprendre pourquoi Dieu devrait passer par un intermédiaire s'il a quelque chose à me dire. Je sais que ça peut être discutable, hein, surtout dans notre tradition évangélique. Mais quand même, si Dieu a un truc à me dire, premièrement, il m'a laissé sa parole. Deuxièmement, il m'a donné son esprit. Troisièmement, il m'a donné l'Église. Et c'est là que l'intervention des frères et des sœurs peut intervenir, dans l'Église. Mais les paroles dites en Église, dit l'apôtre Paul, ça s'éprouve. Ça se réfléchit. Il faut que ce soit intelligent, encore une fois, cohérent. Pas inutilement culpabilisateur, par exemple. Ce n'est pas l'annihilation, la suppression du libre-arbitre. Donc je pense qu'on a le privilège d'avoir parole du Christ, il est l'aboutissement de tout, Saint-Esprit, et puis l'Église où les choses s'éprouvent. Et je vous invite à éprouver ce que je vous dis ce matin. Merci beaucoup pour votre attention.
Et dans un dernier mouvement pour ce matin, pour notre culte, je vous invite à vous lever pour la bénédiction. C'est avec la fin du psaume 22 que Dieu nous invite à entrer dans cette nouvelle semaine. Pour l'amour de mes amis, de mes proches, je veux dire la paix soit sur toi. Pour l'amour de la maison du Seigneur notre Dieu, je demande pour toi le bonheur. Oui, la paix sera notre visée. Nos efforts conjugués perceront les murailles de la haine. Grâce à Dieu, nous nous mettons ensemble pour la porter autour de nous. Mettons-nous en route dans cette nouvelle semaine avec la paix comme visée et assurés de la promesse qu'il nous ouvre un chemin. Allons. Et marchons sous son regard aimant. Bon dimanche.